Greta Thunberg sera aujourd'hui invitée d'honneur de l'Assemblée nationale française, pas pour manger des homards, mais pour parler du climat. Et pour souligner, ce sera sans doute assez cruel pour les députés, les dangers de l'inaction politique très souvent constatée en matière environnementale. La jeune lycéenne suédoise, qui est devenue une figure mondiale de la lutte contre les atteintes à l'environnement, va assister à la séance de questions au gouvernement et prendra ensuite la parole, ce qui agace prodigieusement une partie des députés, certains en appelant au boycott, criant au catastrophisme, qualifiant Greta Thunberg de prix Nobel de la peur. Bonjour Aurélien Barraud.
Bonjour.
Astrophysicien, professeur et chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie à l'université Grenoble-Alpes. Vous avez publié en mai dernier « Le plus grand défi de l'humanité » aux éditions Michel Lafon, reprenant à peu de choses près le titre d'une tribune dans Le Monde que vous aviez signée avec 200 artistes, chercheurs et intellectuels, tribune publiée juste après la démission de Nicolas Hulot. C'était pour enjoindre les politiques à agir face au dérèglement climatique. Est-ce qu'elle est restée lettre morte, à votre avis, cette tribune?
Ah oui, oui, j'en suis tout à fait convaincu. Les choses ne changent pas. On dit parfois que les progrès vont trop doucement. Moi, je pense que les progrès n'ont pas commencé à advenir. Et notre discours n'est pas du tout catastrophiste. Je crois que l'état réel du monde est bien plus alarmant que ce qui est usuellement relayé par les médias.
Il s'est passé des choses ces derniers mois néanmoins, la taxation des billets d'avion, des travaux d'isolation sur 1 million de logements promis par Emmanuel Macron et le gouvernement, la création d'un conseil de défense écologique. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien.
Non, il ne se passe pas rien, mais ce qui se passe de grave est généralement beaucoup plus abondant et beaucoup plus effectif que ce qui peut se passer dans un sens souhaitable. Et je crois réellement que ceux qui nous dirigent n'ont absolument pas compris l'ampleur du problème. Ils sont totalement à côté de la plaque. Ils pensent que de petits ajustements, de petits gestes, de petites choses pourront venir à bout du problème, alors que nous sommes face à une crise existentielle majeure. Et je cite l'ONU, peut-être les quelques députés frondeurs devraient comprendre que la science, le sérieux, la raison est précisément du côté de Greta. Je trouve leur attitude absolument scandaleuse et même indigne. On sait depuis 40 ans que nous sommes dans une situation critique. Tous ceux qui s'y intéressent le savent. Récemment, 15 000 scientifiques ont alerté sur la scientification, sur la gravité de la situation. Rien n'a été fait. Les experts internationaux alertent et rien n'est fait. Et là, ils s'indignent de ce qu'une jeune femme vienne précisément relayer ce message. Donc soyons bien clairs, la science est du côté de Greta.
Et vous aussi, du coup, on vous entend bien, Aurélien Barraud. Je reviens là-dessus, cette terminologie de conseil de défense écologique, ça veut dire quand même qu'il y a au moins une prise de conscience, qu'il faut peut-être du niveau, du côté des politiques, montrer qu'on a compris quelque chose.
Non mais écoutez, depuis 40 ans, on sait. Et les politiques au plus haut niveau de l'État ont accès à ces informations. Aujourd'hui, parler de crise de conscience, c'est ridicule. Voilà. Prendre conscience. Maintenant, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Moi, je m'en fiche que les députés aient bonne ou mauvaise conscience. Je voudrais qu'ils agissent pour sauver le monde. Donc, je trouve que c'est totalement disproportionné par rapport à l'état de la situation. Enfin, disproportionné au sens, bien sûr, que c'est insuffisant.
24% des Français seulement jugent le bilan d'Emmanuel Macron positif sur l'environnement et sur le réchauffement planétaire, d'après un sondage qui a été publié dimanche dans le JDD. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience au niveau de la population, que la politique ne fait pas assez.
Oui, mais elle est très mince. Regardez les élections européennes, on s'est réjoui que les écolos aient fait un score plutôt supérieur à l'habitude. Mais enfin, le vrai résultat quand même, c'est que le Rassemblement National est maintenant le premier parti de France. Voilà ce que nos concitoyens sont allés exprimer dans les urnes. Donc on se rend compte que la vie qui est en train de disparaître sur Terre, c'est pas une projection sur l'avenir. Vous savez que dans les 40 dernières années, on a perdu 60% des populations sauvages. Donc ce n'est pas une crainte pour demain. C'est quelque chose qui est acté, qui est connu, qui n'est même plus scientifiquement questionnable. Nous sommes au cœur de la 6e extinction massive. Et ça reste, je dirais, une préoccupation de seconde zone. Donc nous ne sommes pas du tout dans la dynamique, je crois, qui permettrait de faire face à la situation.
Et vous dites, on ne sait pas. Les gens ne savent pas, l'information ne circule pas suffisamment sur la catastrophe qui est en cours. Comment vous expliquez ça, alors que depuis effectivement des décennies, on sait que quelque chose advient?
Je crois quand même que les forces réactionnaires sont très bien organisées. organisées sont très efficaces et sont très puissantes. Pendant 40 ans, les écologistes ont été présentés comme des doudingues. Vous savez, avec un peu de mépris et de cynisme, c'est des gens qu'il ne fallait pas prendre au sérieux. Il se trouve qu'aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'on sait, de façon incontestable, qu'en réalité, ils avaient raison. La science, tous les scientifiques, les climatologues, les biologistes, les glaciologues, il y a consensus maintenant sur l'immensité du problème. Donc on peut pas dire que ce sont des dingues, puisque en fait, ils étaient bien évidemment dans la vérité. Alors on retourne le fusil d'épaule et on se dit, non, en fait, c'est pas des doudingues, ce sont des dictateurs. C'est absolument incroyable. Ça serait comique si ça n'était pas tragique. Mais on voit quand même qu'ils sont prêts à tout pour ne surtout rien perdre de leur confort, et ça va marcher, parce que le rapport de force est évidemment infiniment de leur côté. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de lobby, nous n'avons pas de puissance économique, nous n'avons pas d'action médiatique concertée. Donc, bien évidemment, il y a un problème aujourd'hui d'opposition frontale qui fait que je n'ai pas beaucoup d'espoir.
Vous parlez de forces réactionnaires qui seraient à l'œuvre. Vous êtes plutôt du côté des révolutionnaires. C'est une révolution que vous appelez de vos voeux, Aurélien Marot ?
Ah ben, la révolution, c'est la condition sine qua non de l'avenir. Mais soyons bien clairs, parce que là encore, tout est instantanément déformé. Ce que nous voulons, c'est une révolution sans terreur. Ce que nous voulons, c'est une révolution pour la vie. C'est-à-dire une révolution pour l'amour, une révolution pour la diversité, une révolution pour le partage, une révolution pour le respect. Ce serait l'exact inverse d'une dictature. Enfin, on voit aujourd'hui que le monde que nous construisons va induire, dans les années à venir, des centaines de millions de réfugiés climatiques. Là encore, ce sont les chiffres de l'ONU, pas d'une jeune adolescente, qui d'ailleurs, à ma connaissance, ne dit pas de bêtises. Eh bien, ces chiffres de l'ONU, ils nous disent quoi ? Que nous allons léguer, non pas aux générations à venir, c'est dans 20 ans dont on parle, donc nous allons léguer à l'avenir proche un monde en guerre. Le monde en guerre est précisément celui qui voit l'émergence de régimes dictatoriaux. Donc, la pensée écologique aujourd'hui, elle veut précisément s'opposer à cela. Elle nous dit que peut-être freiner un tout petit peu notre hubris consumériste, qui d'ailleurs la plupart du temps ne nous rend même pas heureux, pour sauvegarder la vie sur Terre, on ne peut pas ne pas considérer que c'est là que se trouve la raison, tout simplement, la science, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas confondre la vraie science, qui nous informe sur l'état dramatique du monde et qui nous enjoint à changer très vite, avec le lobby des entreprises de technosciences qui essayent de faire croire à un miracle technologique, ce qui tient en réalité à une pensée magique et incantatoire.
Oui, le fait de dire que la technologie arrivera bien à sauver le monde et à contrer les effets néfastes de notre
possède. Mais ça, c'est très intéressant de bêtises, voyez-vous. Parce que, qu'est-ce qu'on entend par sauver le monde ? Si on veut dire permettre à l'espèce humaine en tant que telle de survivre, ah mais ça c'est pas très difficile, moi je pense pas que l'espèce humaine va disparaître. Qu'un très petit nombre d'humains très riches et surprotégés parviennent à survivre, j'en suis absolument certain. Donc oui, en effet, l'espèce humaine va survivre. Mais quand on parle de sauver le monde, on parle de quoi ? On sait qu'aujourd'hui 100 millions d'espèces sont menacées d'extinction à court terme. C'est inimaginable. Ça, je peux vous l'assurer, c'est pas la technoscience qui va le sauver, pour une raison très simple. C'est déjà en cours. C'est en train de se faire. Une grande partie des dégâts a déjà eu lieu. Donc se dire, dans 50 ans peut-être, on aura une technologie pour absorber le CO2, ça ne résout pas du tout le problème. D'autant que ça se focalise sur l'origine de l'énergie. Alors que ce qu'il y a de plus létal aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'énergie. Soyons bien clairs, si demain on fait des bulldozers au solaire, on va quand même utiliser au Brésil ces bulldozers pour détruire la forêt. Donc même avec l'énergie propre, on aura quand même détruit la forêt.
On va revenir sur les solutions qui seraient envisageables. Dans quel âge sommes-nous, Aurélien Barraud ? Il y a l'anthropocène, cette ère marquée par la prise en compte sur l'environnement de l'impact humain. Mais sur le plan politique, vous définiriez la situation avec quel genre de terme ? Greta Thunberg parle de crise existentielle dans laquelle nous sommes tous plongés, nous serions tous plongés comme des lapins pris dans l'effort d'une voiture.
Greta Thunberg, je veux dire, c'est l'évidence scientifique. Faut absolument pas donner crédit à ces forces ultra-réactionnaires qui essayent de laisser penser qu'il y a débat. Vous savez, c'est comme entre les créationnistes et les darwinistes. Il y a pas débat. Bon, la science a tranché, il y a une évolution des espèces. Après, on peut avoir les convictions religieuses ou spirituelles que l'on veut, c'est tout à fait autorisé, personne ne souhaite l'interdire. Mais scientifiquement, c'est le darwinisme qui a raison, on n'en parle plus. C'est exactement la même chose aujourd'hui avec la crise qui est non seulement climatique, mais également écologique au sens de la pollution, au sens de la disparition des espaces de vie, et qui est une crise majeure. Ce constat ne fait plus débat. Voilà. c'est un fait. Et par rapport à ce fait, l'action politique aujourd'hui est ridicule. Ridicule. Je veux dire, Monsieur Macron explique que Monsieur Hulot avait lui-même participé à la négociation et donc il ne doit pas se plaindre. Mais ce sont des gamins dans une cour de récréation qu'on entend ici. On est en train de détruire la planète et on se crêpe le chignon pour savoir si oui ou non ça s'est plutôt bien fait à ce moment-là, à cet endroit-là, dans ce texte-là. Non, ça va pas du tout ce qui se passe en ce moment.
Il faut aller chercher des ressorts psychologiques pour essayer d'expliquer ça, Aurélien Barreau. L'écologie, maintenant, est un terme trop étroit, dites-vous. Il faudrait parler plutôt de notre rapport à la nature et de notre rapport au réel.
Oui, je crois qu'il est temps, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle, parce que la factualité, pourrait-on dire, climatique est triste. Mais au-delà de cette tristesse, il y a quand même de bonnes nouvelles, c'est que nous sommes enjoints en quelque sorte à tout réinventer. Vous savez, en philosophie, l'être en tant que tel des choses, on appelle ça l'ontologie, et je crois que nous avons aujourd'hui non seulement l'opportunité, mais même la nécessité de réinventer de nouvelles ontologies, de nouvelles alliances, de nouvelles connivences, à la fois entre les humains et entre les non-humains, et ça c'est une très belle chose en réalité, parce que il est vrai que nos schèmes politiques ont relativement peu évolué depuis quelques siècles en réalité, à la marge bien sûr, mais pas de façon extrêmement fondamentale. Et là, il y aurait peut-être l'incoatif en quelque sorte d'une déconstruction intellectuelle pour le meilleur qui puisse être pensée dans l'idée d'un commun totalement renouvelé. Et ça demande aussi un travail, par exemple, sémiotique ou symbolique sur les signes, sur les mots. Vous savez, si au lieu de parler de croissance économique, on parlait de prédation mortifère, je pense que le ressenti serait différent en écoutant les nouvelles le matin. Donc il faut aussi travailler les catégories, je crois.
Ah, il faut nommer les choses. Et en attendant, est-ce qu'on serait dans un, selon vous, un stress pré-traumatique, comme l'explique une tribune publiée par l'Institut Momentum dans Le Monde hier?
Pour être tout à fait honnête, je crois aujourd'hui que le niveau de stress est plutôt très insuffisant par rapport à la réalité. Alors, j'entends d'avance les critiques de nos opposants qui ont expliqué que nous voulons mettre les gens sous Prozac. Non, mais bien sûr que non. Mais enfin, on ne peut quand même pas reprocher aux lanceurs d'alerte la gravité de ce qu'ils dénoncent. Ce n'est pas notre faute. Bon, le monde va mal. Voilà, ça c'est factuel. La vie est en train de s'effondrer. Juste un chiffre que je trouve terrifiant. Vous savez quelle est la part des mammifères libres sur Terre? En masse, c'est 5%. Le reste des mammifères, c'est de la viande d'abattoir en devenir. Ce sont des vaches dans des fermes-usines, pour l'essentiel. On a quand même construit un taux de monstruosité qui peut difficilement nous placer dans un état de sérénité enjouée. Alors, faut-il pour autant sombrer dans la dépression ? Évidemment pas, rien ne serait pire. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui la place pour transformer cette déception, parce qu'on ne peut pas ne pas être déçu par ce que nous avons construit, en un véritable réenchantement. Mais alors, bien sûr, il faut travailler en profondeur et pas simplement croire au miracle d'absorbeur de CO2 qui viendrait nous sauver. Ça n'est techniquement pas fiable et philosophiquement pas suffisant.
Le stress pré-traumatique était utilisé pour expliquer l'apathie générale dont on se rend finalement tous coupables, Aurélien Barreau.
Oui, et il y a peut-être deux écueils. Bon, l'un des écueils consisterait à devenir fou, parce que la situation est trop grave, donc ça, bien sûr, nous ne le souhaitons pas. On ne va pas tous mourir, hein, c'est certain. La vie en elle-même ne va pas mourir. Moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de collapse au sens d'un effondrement très rapide comme ça. Donc, raison gardons. Voilà, il y a encore matière à action. Mais l'autre écueil, qui est le plus grave en réalité, c'est celui qui consiste à dire, bah, puisque c'est foutu, continuons comme si de rien n'était. Ça, c'est quand même très vulgaire, parce que ça consiste à dire, jouissons encore une dernière fois, quoi qu'il en coûte. Et c'est complètement faux en réalité. Parce que il est vrai que des dégâts irréversibles sont en train d'être causés. Mais bien sûr, ça pourrait être pire. Bien sûr, c'est précisément dans les situations critiques que les alliances, que l'appel à la mesure et à la raison peut encore tout changer. Sauver le monde, ça veut rien dire. Il y aura des dégâts très graves dans le monde, mais il n'y aura pas une disparition totale de la vie. Et la question est où mettons le curseur entre ces deux extrêmes? Et ça dépend précisément de l'action qui est menée maintenant. Alors bien sûr, il faut avoir peur, parce que ça serait totalement inepte de ne pas voir la vérité de la situation, qu'il ne faut pas non plus sombrer dans une angoisse inhibante qui n'est pas raisonnable, parce que vous voyez, le ciel est bleu ce matin, il fait extraordinairement chaud, mais enfin, le ciel est bleu, la vie perdure, nous sommes toujours là, et bien sûr, il y a moyen d'agir.
Il faudrait pour cela, comme vous le disiez tout à l'heure, casser ou limiter notre hubris consumériste. Mais alors quel modèle politique pour ça? Parce que il va falloir passer par des mesures impopulaires, il va falloir passer peut-être aussi, et vous l'appelez de votre vœu, un certain nombre de mesures coercitives. Est-ce que ça, c'est le domaine de l'écologie politique encore, ou on est passé dans totalement autre chose qu'il faut peut-être étudier?
Là encore, soyons bien clairs, parce que on entend déjà les railleries sur la dictature verte et les Khmers verts. Soyons bien clairs, il ne s'agit que de mettre frein à quelques attitudes extraordinairement prédatrices qui ont des conséquences dévastatrices pour notre avenir commun. Il ne s'agit pas de mettre fin à la liberté individuelle. Je déteste la dictature. Tous les écologistes que je connaisse détestent la dictature. Mais voyez, dans quelques années, quand il fera les températures estivales, on pense que 70% de la population mondiale sera soumise à des températures potentiellement mortelles à l'horizon de la fin du siècle, on ne pourra plus sortir de chez soi. Ça, c'est une privation de liberté extraordinairement considérable. Donc si aujourd'hui, on freine un peu certaines libertés consommatrices qui ne sont pas du tout importantes pour notre réalisation existentielle, et que cela permet en retour de sauver la pérennité du vivant, la diversité des espèces, la beauté de ce monde, eh bien évidemment que la raison nous impose de le faire. Nos libertés sont aujourd'hui même très limitées. Évidemment, je n'ai pas le droit là tout de suite de vous diffamer à l'antenne. C'est interdit par la loi. La loi m'empêche de le faire pour vous protéger. La loi veille au bien commun. Il est un peu contrariant que la loi ne veille pas aujourd'hui à ce bien commun essentiel qu'est la pérennité de la vie sur Terre. Mais moi, je crois qu'effectivement, vous avez raison. Il faut ces actions. Il y a un certain nombre de personnes de très bonne volonté dans les sphères politiques. J'en connais, qui font leur maximum et je salue leur action. Mais au-delà de ça, il faut aussi des microcosmes de résistance. Il faut essayer ailleurs. Il faut absolument envisager d'autres manières d'être. Moi, je vois des ZAD, par exemple, des zones à défendre. Alors, il n'y a sans doute pas que des enfants de cœur. Hein. Il y a sans doute des erreurs qui se passent là-bas aussi. Ça, je n'en doute pas une seconde. Mais il faut expérimenter d'autres manières d'être. Je trouve ça très intéressant, ce que font ces gens. Vous savez, quand on leur demandait s'ils protégeaient la nature, ils répondaient non, nous sommes la nature. Bon, n'angélisons pas les choses, c'était probablement pas parfait, mais je crois qu'il faut absolument soutenir toutes les méthodes possibles de réenchantement du réel par extraction à l'hubris consumériste.
Autre enseignement du sondage dont je parlais tout à l'heure dans le JDD, 92% des Français se disent prêts à trier davantage leurs déchets, ça c'est une chose. 18% seulement seraient prêts à accepter de payer davantage de taxes sur les carburants. Quand vous dites qu'il faut que ça passe par la loi, effectivement, et on voit bien qu'il faut que ça passe par la loi, néanmoins, quand on prend des lois, ça donne assez immédiatement des bonnets rouges ou plus récemment des gilets jaunes. Comment résoudre cette
équation? Oui, absolument. Et ça se comprend très bien. Moi, je pense que beaucoup de nos concitoyens vivent dans une relative pauvreté et devoir faire plus d'efforts encore alors qu'ils se sentent, à juste titre, dans beaucoup de cas, proches d'une situation instable, c'est absolument inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas possible d'envisager une révolution écologique sans une action socialement très forte de partage. Écoutez, c'est quand même très simple. On veut diminuer l'impact létal sur la nature, on le veut et on le doit en réalité, et en parallèle, on veut endiguer la pauvreté alors que la population mondiale va encore croître pendant quelques années, voire quelques décennies. Il n'y a aucune solution rationnelle autre que le partage. Et là encore, gardons raison, il ne s'agit pas d'instaurer une dictature stalinienne. D'ailleurs, sous Staline, le partage, il n'était pas vraiment à l'œuvre. Donc, ne brandissons pas comme ça les spectres de la dictature communiste. Il n'en est absolument pas question. Il s'agit simplement d'être un peu scientifiquement rationnel et éthiquement bienveillant par rapport à une situation pour laquelle il y a des solutions évidentes. Mais des gens bien habillés, dans de beaux costumes, dans les assemblées nationales ou autre part, ou dans les écoles d'économie, nous font croire que ça c'est délirant, que ça c'est effectivement les jeunes filles en culotte courte, comme on dit pour se moquer de Greta, qui propose cela. Moi je le dis très clairement, le sérieux est de son côté.
Vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous définir finalement l'écologie politique, alors qu'il faudrait peut-être la redéfinir. Comment faire ça? Comment résoudre ce problème-là aussi?
Moi, j'appelle à un activisme fractal. Donc comprenons-nous bien, hein, activisme, ça ne veut pas dire aller casser des bâtiments ou brûler des voitures, pas du tout. Activisme fractal, ça veut dire à toutes les échelles. Vous savez, la fractalité en physique, dans mon domaine, ça définit un motif qui est essentiellement invariant suivant l'échelle à laquelle on le regarde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas abandonner l'échelle politique. Elle est importante, il y a des gens de bonne volonté, il faut les convaincre, il faut aller plus loin. Ça ne vaut pas rien, ces choses-là. Chaque petit pas gagné est un petit pas gagné. Mais ça ne suffit pas. Il y a l'échelle associative, il y a l'échelle individuelle, il y a l'échelle philosophique, il y a l'échelle sémantique, il y a l'échelle scientifique, naturellement. Parce que même si je dénie à la technoscience la capacité de trouver une solution finale ou une solution correcte au problème, bien sûr qu'elle peut permettre des progrès à la marge et qu'il ne faut pas les refuser. Donc je crois qu'il est très important de fractaliser l'action et de ne pas la cantonner à un seul champ particulier. La seule chose qui est essentielle, c'est d'en faire une priorité. Et aujourd'hui, cette histoire là de ministre de l'environnement, c'est grotesque. D'abord, c'est grotesque que monsieur de Rugy soit tombé non pas sur la faiblesse de son engagement écologique, ce que je crois, mais sur une affaire annexe. Moi, ça me semble très très triste finalement. Et ensuite, quel est le seul signe donné à sa remplaçante, que je ne connais pas personnellement, donc je lui souhaite bon courage, c'est d'avoir été rétrogradée en n'étant plus ministre d'État, donc l'écologie c'est juste un petit peu moins important qu'avant. Non mais ça va pas du tout, on n'a absolument pas compris qu'on est en pleine guerre, et en pleine guerre on s'occupe d'abord de la guerre.
Aurélien Barreau, vous restez avec nous en duplex de Grenoble, je le précise, grâce à nos amis de France Bleu Isère qu'on salue et qu'on remercie. Nous poursuivons cette discussion juste après le journal de Sophie Delpont. Nous serons rejoints par Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Nous retrouvons notre invité Aurélien Barreau depuis Grenoble. Vous êtes astrophysicien, professeur et chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie à l'université de Grenoble-Alpes, auteur de Le plus grand défi de l'humanité aux éditions Michel Lafon. Nous essayons de déterminer ce matin le moment précis où s'arrête le catastrophisme en matière climatique et environnementale et où commence la prise de conscience à l'occasion de la venue aujourd'hui à l'Assemblée nationale de la jeune militante Greta Thunberg. Vous nous avez parlé dans la première partie de cet entretien, Aurélien Barreau, d'activisme fractal, de solutions peut-être pour essayer de casser notre hubris consumériste. Avant de retrouver notre autre invité, Julien Aubert, député des Républicains du Vaucluse, quel type de mesures très concrètes, Aurélien Barreau, faudrait-il prendre à votre avis pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être ?
Oui, c'est quand même extraordinaire de parler de catastrophisme. Enfin, aujourd'hui, le vrai drame, c'est qu'on ne fait presque rien par rapport à une situation qui est scientifiquement, incontestablement, extraordinairement contrariante et même létale pour l'avenir des vivants sur Terre. Mais ce qui nous inquiète globalement aujourd'hui dans les médias, ce n'est pas la situation qui elle-même est catastrophique, c'est le fait qu'on s'en inquiète peut-être un peu trop, alors qu'en réalité on s'en inquiète pas du tout assez puisqu'on ne fait rien alors que nous sommes menacés. Il y a une inversion des valeurs par les forces de réaction aujourd'hui qui est non seulement scientifiquement inepte, mais qui est quand même éthiquement dégueulasse. Et je crois quand même qu'il faudra qu'ils se regardent bien dans un miroir lorsqu'ils verront l'état de la vie sur Terre. Je rappelle que nous avons déjà détruit 60% des populations sauvages en France aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, et c'est quand même pas exactement un détail.
Alors vous n'avez pas répondu quelles mesures.
On a mille à faire. Mais moi, je crois que le plus important à l'échelle individuelle, parce que je ne suis pas politique et je ne vais pas entrer en politique, je crois que le plus important, c'est une démarche de réflexion personnelle, individuelle et constante pour intégrer le fait que rien n'est donné. C'est-à-dire que le monde tel qu'il est aujourd'hui ne va pas de lui-même. Nous avons construit un système pour le meilleur et pour le pire, parfois pour le meilleur, reconnaissons-le. Mais tout pourrait être autre. Et dans une situation où nous sommes manifestement face à une impasse, moi je crois que notre obligation finalement fondamentale, c'est effectivement de remettre en cause toutes les évidences. Et pour moi, à l'échelle individuelle, la mesure la plus fondamentale par exemple, c'est de renoncer à l'alimentation carnée, qui est dramatique pour l'environnement, dramatique en termes d'éthique animale et néfaste en termes de santé humaine.
Sur le commerce aujourd'hui, hasard du calendrier, les députés vont devoir se prononcer, on en parlait dans le journal, sur le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Est-ce que ça, si d'aventure le CETA était ratifié par l'Assemblée, ça irait contre le bon sens, comme vous dites, Aurélien Barreau ?
Bon, moi je m'en tiens quand même à une certaine humilité, une certaine modestie. Je ne suis ni économiste ni politique, je n'ai pas lu tous les aspects du problème, je ne les ai pas étudiés assez en profondeur, mais je dois reconnaître que j'ai une certaine tendance à faire davantage confiance à Nicolas Hulot qu'aux partisans de l'accord, et je crois donc effectivement que si ce n'est une catastrophe, c'est au moins un pas dans une mauvaise direction. Et la situation étant ce qu'elle est, c'est inacceptable.
Alors on va retrouver Julien Aubert maintenant, député Les Républicains du Vaucluse, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Julien Aubert.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors vous n'allez pas assister au discours de Greta Thunberg aujourd'hui, que vous qualifiez de prophétesse en culotte courte, prix Nobel de la peur, lit-on ici ou là. Greta Thunberg, donc vous n'irez pas, vous nous le confirmez, l'écouter aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Non, sans que ce soit d'ailleurs un boycott, j'y serai pas allé de toute manière. Bon, ma colère résidait plutôt dans le fait qu'on l'invitait en sans doute dans les gradins d'honneur de l'Assemblée nationale, là où généralement on met les autorités protocolaires invitées par la République, voilà. Après que la droite son point de vue, mais non, j'irai pas l'écouter.
Pourquoi ne pas l'écouter, Greta Thunberg? C'est une voix parmi d'autres, et on sait, et on le sait très bien maintenant, que plus on a d'avis, et mieux on arrive à définir une politique pour tenter de lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je sais ce qu'elle va me dire. Ensuite parce que nous sortons de longs débats sur l'énergie et le climat où j'ai eu ceux qui l'ont invité, c'est-à-dire les écologistes les plus durs dans l'hémicycle. Et donc nous avons déjà eu les débats, je dirais, sur le diagnostic qui est fait. Ensuite parce que le problème n'est pas sur le diagnostic. Le problème est sur le comment. C'est la grande divergence, c'est-à-dire que moi je pense qu'au lieu de faire de la politique spectacle, d'autant qu'en plus cette jeune demoiselle, elle a été portée par des structures numériques qui sont financées par des milliardaires qui vendent l'automobile. Donc si vous voulez, je suis toujours un peu sceptique moi sur ce type de profil, mais si je mets de côté la personne qui porte le message, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est quelle politique on mène aujourd'hui en France si on veut participer au réchauffement climatique, à la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous avons des divergences profondes avec certains écologistes sur la faisabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on dit diviser par 6 ou par 8, comme elle le propose elle aussi, d'ailleurs, au niveau de la France, les émissions de CO2, ça veut dire d'abord un impact mondial assez faible, parce que nous pesons moins de 1% des émissions de CO2. C'est-à-dire qu'on pourrait totalement, si vous voulez, annuler les émissions de CO2 en France, que ça ne changerait rien si la Chine, l'Inde et les États-Unis ne le font pas.
Ça aurait un effet d'entraînement, Julien Aubert, vous le savez bien.
Ah non, il n'y aura aucun effet d'entraînement. Je peux vous assurer que la France réduirait à zéro ses armes nucléaires. Vous verriez que les États-Unis ou la Chine ne feraient rien non plus.
Alors vous dites que vous êtes d'accord sur le diagnostic avec Greta Thunberg. C'est-à-dire que là, on sent une avancée quand même, y compris quand elle dit qu'il faut agir vite, qu'il faut taper fort pour essayer de faire avancer un peu les choses.
Je ne suis pas d'accord, si vous voulez, avec l'agitation des peurs. C'est le discours millénariste consistant à geler tout débat rationnel.
Mais où est le discours, où est le discours millénariste et qu'est-ce que vous entendez d'ailleurs très précisément par là, Julien Aubert?
Quand elle vous dit, moi j'ai envie que vous paniquiez, lorsque j'entends, il faut faire ça très rapidement.
Ça c'est pas millénariste, c'est pas du tout millénariste, ça n'a rien à voir.
Parce qu'on vous dit que l'humain va disparaître. Tout à l'heure, j'entendais votre précédent invité qui disait, voilà, l'attention pour l'humanité, etc. Donc, moi, j'ai eu le débat dans l'hémicycle avec des gens qui me disaient, mais nous n'avons plus que 12 ans pour agir, sinon la biodiversité va s'effondrer, sinon l'humanité va disparaître avec des milliards de disparitions. C'est ça, un discours millénariste. Or, si vous voulez, par rapport à un discours millénariste, il faut voir déjà ce que la France peut faire, dans quelles conditions, et ça, c'est un vrai débat politique.
Est-ce que vous n'avez pas peur de donner l'impression, comme ça, de mener une toute petite bataille politique par rapport à de très grands enjeux, finalement?
Moi, j'ai surtout peur que le discours du réchauffement climatique se mue en religion et que lorsque vous voulez l'attirer sur le terrain de la faisabilité, on vous dit « Non, mais vous comprenez, comme l'enjeu est trop important, on ne peut pas discuter de ce petit détail. » Et ce qu'on appelle le petit détail, ce sont les millions de Français qui payent les taxes sur le carbone, qui payent les taxes sur l'électricité, qui essayent de vivre. Donc c'est très bien, mais à un moment donné, on les a vus il y a 6 mois, vous vous rappelez, les gilets jaunes. Et là, on trouvait pas que c'était quelque chose de totalement subalterne dans le débat. Lorsqu'on vous dit on divise par 6 ou par 8 les émissions de CO2, c'est la fin de l'élevage. Et d'ailleurs, j'entendais M. Gillot qui disait qu'il faut renoncer à l'alimentation carnée. Très bien, donc on va expliquer aux millions d'éleveurs dans ce pays, que dans 10 ans, ils n'auront plus de travail. On va aussi expliquer que c'est la fin de l'industrie, c'est la fin de l'avion, la fin du tourisme. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, mettons les cartes sur table. que ceux qui prônent le discours de Madame Thunberg viennent expliquer très concrètement aux Français ce que ça signifie demain comme mode de vie. Et en réalité, vous réaliserez que c'est un modèle fondamentalement décroissant. Alors après, qui est cohérent, je dirais, avec la cible qu'il se donne, hein, parce que l'idée, c'est que, comme de toute façon, il y a urgence, il faut absolument réduire drastiquement les émissions de CO2 rapidement en France. Moi, ce que je vous dis, c'est que de toute façon, la France n'est pas dans le match. C'est-à-dire que même si on faisait un effort extrêmement important à harakiri industriel, nous ne changerons pas la situation sur le réchauffement climatique. Et donc, en l'occurrence, nous devrions mettre plutôt l'argent de la transition énergétique et écologique dans l'adaptation au réchauffement.
Donc c'est un constat finalement d'échec avant même la bataille. Vous baissez les armes. Est-ce que les politiques n'ont pas, au contraire, Julien Aubert a toujours essayé de trouver des solutions pour faire changer les choses. C'est ça la politique aussi.
Oui, d'accord, mais c'est pas baissé. Enfin, d'abord, c'est pas un constat d'aujourd'hui. Vous savez, ça fait 20 ans qu'on fait des COP. 20 ans. Est-ce que vous avez vu le début d'un changement dans les émissions de CO2? Moi, j'ai voté la loi, enfin, j'ai combattu la loi sur la transition énergétique de 2014 en France, qui était soi-disant faite pour réduire les émissions de CO2. Elles ont augmenté sur toute la période, sauf cette année où elles ont baissé. Nous sommes en train de fermer, ce sont ces mêmes écologistes radicaux qui veulent fermer les centrales nucléaires, qui sont les premières à décarboner notre économie. C'est-à-dire que nous consacrons 80% de l'argent de la transition énergétique à casser le seul outil qui permet de décarboner l'économie. J'ajoute d'ailleurs que quand vous lisez les rapports du GIEC, 80 des 91 rapports du GIEC disent qu'il faut passer par le nucléaire. La France s'obstine à détruire son outil nucléaire. Expliquez-moi où est la rationalité. Expliquez-moi où est la rationalité de détruire le seul élément qui nous permet de lutter contre le réchauffement climatique. Donc c'est là, si vous voulez, ces incohérences, il faut les pointer et les dénoncer. Parce que pendant qu'on invite Madame Greta Thunberg pour faire de la politique symbole, ça réjouit tout le monde, personne ne discute de la faisabilité. Et surtout, personne ne regarde que pendant dans le même temps, on ratifie le CETA qui va augmenter les émissions de CO2.
Vous allez voter contre, Julien Aubert, le CETA?
Évidemment, j'ai voté contre. Quel est l'intérêt d'acheter à 4 ou 5 000 kilomètres de la viande que je peux produire moi-même, sinon le fait que je vais augmenter l'empreinte carbone de ce pays?
Voilà, on a trouvé un point au moins où nos deux invités ce matin peuvent se rapprocher. Aurélien Barraud, vous êtes resté avec nous. On voit qu'il est extrêmement difficile, évidemment, quand on demande à des politiques de prendre des mesures impopulaires, d'avancer.
Déjà, il est très difficile de discuter, puisque votre invité explique que je dis que l'humain va disparaître, alors que j'ai dit exactement l'inverse. Donc on pourrait quand même attendre d'un député de comprendre le sens des mots. Bon, ensuite, il explique que sa colère vient de ce que Madame Thunberg sera assise sur les bancs qui ne sont pas protocolairement adaptés à sa position, si j'ai bien compris. Oh, c'est sûr, une jeune femme qui pense, ça fait peur. Bien moi, ma colère, monsieur, ce n'est pas la présence de Madame Thunberg sur des bancs dédiés à des personnalités politiques. Ma colère, c'est la disparition de la vie sur Terre. Je crois qu'il faut un peu privilégier nos indignations. Quant à vos réserves sur son profil, elles semblent porter sur une éventuelle proximité avec des lobbies, mais c'est quand même une imposture. Quand on connaît l'importance du lobby technocratique dans notre monde qui a façonné ce réel qui est littéralement antagoniste avec la vie, laisser entendre que ce sont les quelques écolos qui sont portés par les lobbies, ça relève de la farce. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et quand même, la crainte que vous émettez également que l'écologisme puisse se changer en religion, alors même que c'est la religion de la croissance qui, du point de vue scientifique, nous pousse à nous trouver dans une situation d'instabilité exponentielle, c'est très bien compris du point de vue physique, c'est mon domaine, que c'est cette religion-là, donc, qui a les conséquences les plus mortifères, c'est là encore quand même, je trouve, un rapport ou une inversion du rapport d'oppression qui confine, pourrait-on dire, à l'imposture. Donc, je crois qu'effectivement, on est aujourd'hui face à un crime contre la vie, on est aujourd'hui face à un crime contre l'avenir, et le pire, c'est précisément l'immobilisme qui consiste à considérer que nous, les gens sérieux, nous savons que rien ne peut changer. Je crois effectivement qu'avec cette vision-là dans l'hémicycle, c'est perdu d'avance.
On va entendre Julien Aubert, peut-être, si vous êtes resté avec nous.
Oui, ce monsieur a commencé à dire, vous vous rendez compte, je n'ai jamais dit que la vie humaine était menacée, et 30 secondes plus tard, il me dit, c'est la disparition de la vie sur Terre. Vous voyez toutes les contradictions. Ensuite,
on joue sur des petits détails. Il nous a expliqué de manière longue tout à l'heure qu'il y avait un risque pour une grande partie de l'humanité.
Non. La disparition de la vie sur Terre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça englobe l'humanité, les espèces animales. Moi, quand on me dit le grand enjeu, c'est la disparition de la vie sur Terre, j'appelle ça un discours millénariste. Voilà. Et donc moi j'entends bien, si vous voulez, les discours théoriques de ce monsieur. Après, il ira expliquer aux gens qu'on va leur enlever leur voiture, qu'on va les empêcher de bouger, qu'on va les assommer de taxes, et on verra si la fin de mois, eh bien, aura le même impact que la fin du monde. Moi, c'est très bien les gens qui fonctionnent avec les théories. La politique, c'est pas la théorie. La politique, c'est l'art du concret. Et en l'occurrence, quand ils auront un discours plus clair sur la décarbonation de l'économie française, sur laquelle nous pouvons agir, notamment le nucléaire, ils seront crédibles. Pour l'instant, il n'y a aucune crédibilité.
Merci Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Merci aussi à vous Aurélien Barraud. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le plus grand défi de l'humanité aux éditions Michel Lafon. Un grand merci à France Bleu Isère qui a permis cet entretien depuis Grenoble où vous vous trouviez, Aurélien Barraud. Il est 8h31 sur France Culture.